La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Et si la mutation numérique offrait enfin l'occasion pour les sciences humaines et sociales, les sciences dites dures et l'art, de se rencontrer, non pas simplement pour échanger, confronter, comparer des modes de connaissances différents, mais bien plutôt à la faveur de l'apparition de ce grand terrain de jeu qu'est le numérique, de travailler ensemble, de produire ensemble, sans oublier évidemment également de réfléchir ensemble. C'est cet enjeu-là que l'on trouve au cœur d'un livre « Design et humanité numérique », un livre d'Anthony Mazure qui est aujourd'hui l'invité de la suite « Dans les idées ». Anthony Mazure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse et vous signez ce livre « Design et humanité numérique » aux éditions B42, dont il faut tout de suite saluer le travail. Un travail très très exigeant sur le domaine du design en particulier, des médias plus largement, de la communication. On aura l'occasion de parler d'une revue publiée également par cette maison d'édition, Back Office. Ce livre paraît dans la collection Esthétique des données que dirige Nicolas Telli. Et ce bref livre, en fait, est extraordinairement dense et il est l'occasion peut-être d'y voir un peu plus clair dans un domaine relativement nouveau et qui a besoin d'une grande clarification. Alors, on aura l'occasion de parler du versant peut-être encore plus esthétique, encore plus artistique dans la deuxième partie de l'émission, puisque nous serons en compagnie de Stéphane Buellet, qui est designer et qui est très impliqué dans des projets qui touchent aux relations entre le design et les sciences humaines et sociales, qui est l'un des acteurs du côté du design de ces humanités numériques, peut-on dire. Mais commençons, Anthony Mazure, par tout simplement des définitions. Humanité numérique, le mot est devenu relativement courant, mais il continue d'une certaine façon de poser problème. On n'est pas sûr de tous désigner exactement la même chose derrière ce mot d'humanité numérique. Déjà, humanité, s'agissant d'un domaine où il y a beaucoup de machines, de robots, de quoi parle-t-on quand on parle d'humanité numérique ?
Oui, pour clarifier cette définition, humanité vient plutôt de la Renaissance, à savoir une époque, pour dire de façon très générale, où on prend l'homme comme sujet d'étude. Et humanité numérique, je propose une définition assez simple pour commencer, on pourra la raffiner ensuite, dans le livre, qui comprend cette expression comme l'association de pratiques savantes en sciences humaines et la rencontre de matériaux numériques, alors ça peut être logiciel ou matériel. Donc ça inclut à la fois des processus de numérisation ainsi qu'un travail théorique et l'élaboration de nouvelles méthodes analytiques, pour dire de façon très générale.
Alors ça couvre beaucoup de choses. En gros, ça vise aussi à désigner ce qui se produit dans ce moment particulier de mutation, peut-être peut-on dire, plutôt que de révolution. D'abord, il faut éviter de s'imaginer que les choses se sont produites soudainement. C'est une longue histoire. Les sciences humaines et sociales n'ont pas découvert les données avec l'apparition des ordinateurs. Elles avaient l'habitude de travailler avec des données bien avant les ordinateurs. Donc c'est une très longue histoire qui se prolonge, qu'il faut prendre en compte. Néanmoins, on est dans un moment particulier et on voit de plus en plus de chercheurs se poser des questions sur ce qui est désormais possible avec ces données, ce que ça change en termes de projets de recherche, ce que ça permet en termes de construction de nouveaux objets de recherche et ce que ça laisse entrevoir comme nécessité de collaboration avec d'autres savoir-faire. Et c'est là que se rencontrent, au fond, les humanités numériques, quelle que soit l'origine des chercheurs. En termes disciplinaires, ça peut très bien être des sociologues, des géographes, des politiques, enfin toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Et de l'autre côté, des gens qui ont un autre rapport à ces données et qui peuvent être soit du côté des sciences dures, des statisticiens, des mathématiciens, des informaticiens bien évidemment, mais aussi du côté artistique. En fait, on est au croisement des trois
exactement.
Domaines.
Alors on va peut-être pouvoir raffiner un peu la distinction. Au niveau des acteurs de ces humanités numériques, traditionnellement, ce seront plutôt des chercheurs en sciences humaines et sociales, qu'ils soient historiens, sociologues ou autres, et des professionnels de l'information qui peuvent plutôt prendre deux aspects principaux. D'un côté, les informaticiens, plutôt côté ingénierie, et de l'autre côté, bibliothécaires ou archivistes, voire commissaires d'exposition ou curateurs. Et donc, dans le livre, mais on y reviendra plus tard, j'examine qu'est-ce que pourrait faire le design dans cette histoire. Mais avant d'en arriver à ça, peut-être pour nos auditeurs, resituer un petit peu plus l'histoire récente des humanités numériques. Je propose, je suis pas le seul, Aurélien Béra, qui est chercheur en humanité numérique, fait de même. Dans les années 50, c'est une histoire assez drôle, le père jésuite Roberto Busa travaille avec IBM, donc cette multinationale informatique, sur l'analyse du corpus de Saint Thomas d'Aquin. Et donc, ce sont des millions de mots qui sont ainsi automatisés, qui était une tâche faramineuse, qui ne pouvait pas être faite humainement. Donc, il utilise, il développe avec IBM un système de cartes perforées pour repérer des récurrences de termes et du coup, transformer l'analyse de ce corpus, en tout cas renouveler la façon dont on l'approche. Donc ça, c'est plutôt années 50. Ensuite, dans les années 1970-1980, on poursuit cette idée ou cette utopie d'analyse automatisée des langues, du langage ou des productions textuelles. Ce seront ce qu'on peut appeler les humanities computing, en français humanité computée, ça sonne un petit peu moins bien. Donc c'est cette idée que par les algorithmes, on va pouvoir comprendre le langage. À la même époque, donc années plutôt début 70, au niveau de l'informatique personnelle, ce sont le développement des interfaces graphiques qui donc, d'un côté, permettent d'élargir considérablement le public de l'informatique, le grand public à ce moment-là.
C'est-à-dire les écrans d'ordinateur tels qu'on a appris à les connaître.
Exactement, avec les icônes, avec les fenêtres, voilà, et non plus la ligne de commande un petit peu rebutante. Et de l'autre côté, ben justement, ça opacifie en quelque sorte le fonctionnement interne des machines. Donc là, c'est les 70-80. Plus proche de nous, début 90, l'invention du web, évidemment, qui du coup met quand même quelques années à se répandre dans le grand public et qui ouvre la voie. C'est vraiment là que les projets en humanité numérique se développent au sens multidisciplinaire, puisque le web permet évidemment de connecter des acteurs différents d'un bout à l'autre de la planète. Autre étape importante, début années 2000, ce que Tim O'Reilly, qui vient plutôt du marketing, appelle le web 2.0, à savoir il repère un ensemble de pratiques contributives, collaboratives, notamment sur des sites qui n'ont a priori pas grand-chose à voir, mais que lui agglomère comme Flickr, côté privé ou côté public, comme Wikipédia, en 2001, qui du coup ouvre la voie à une construction collaborative ou contributive des connaissances. Et ensuite, côté réception française, autre date importante, encore plus proche de nous, 2010, le VATCamp Paris, donc un événement semi-informel avec un manifeste des humanités numériques qui est rédigé à l'époque. Donc c'est plutôt début 2010 que ça vient en France, ces histoires-là, en tout cas que ça se concrétise concrètement.
Voilà, résumé à grands traits cette histoire. Merci pour cette manière d'appréhender finalement une histoire à la fois très contemporaine et en même temps qu'on ne saurait réduire aux 4 dernières années, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. Peut-être on peut faire presque le même exercice avec le mot design, sur lequel il y a aussi des malentendus. Alors il nous est arrivé de parler de design ici, notamment avec Pierre-Damien Huyghe, qui est l'un des théoriciens les plus importants du design en français et qui a eu l'occasion de venir expliquer son travail sur ce domaine. Mais par design, peut-être il serait intéressant, Anthony Mazure, que vous précisiez ce que vous, chercheur, vous entendez, qui est assez différent de ce que le grand public peut entendre par design en règle générale.
Oui, dans l'introduction, j'essaie de préciser ce mot-là qui est un petit peu fourre-tout en France. C'est pas tout à fait la même tradition qu'à l'étranger. En France, on a encore aujourd'hui, et je le regrette, une compréhension qui s'agglomère avec l'histoire des arts décoratifs. Et dans ce livre, j'essaie de faire un petit peu de tri dans tout ça et de comprendre le design non pas comme la résolution de besoins ou la réponse à des usages, qui est un petit peu l'idée courante qu'on s'en fait, mais dans un sens plus ouvert, plus critique et aussi peut-être plus esthétique, comme un cheminement dans des qualités formelles et structurelles ou fonctionnelles des objets. Donc plutôt comme une aventure, une découverte, un processus de révélation de ce que les techniques peuvent nous faire, mais qu'elles nous font pas forcément parce qu'elles sont prises notamment dans des réseaux économiques ou industriels au sens de grande industrie. Donc c'est plutôt cette approche-là que je défends, qui est peut-être plus mineure dans les pratiques, mais que je cherche à mettre en avant.
Alors dans votre livre « Design et humanité numérique », vous explorez différentes dimensions, mais le point commun peut-être entre ces chapitres, comme autant de coups de sonde dans des domaines, c'est qu'ils viennent remettre en question chacun des idées reçues un petit peu sur la question, que ce soit l'idée du modèle, on va y revenir hein, sur chaque, l'idée de l'expérience centrée, vous appelez un accentrement ou un décentrement, je ne sais pas, vous nous expliquerez ce que vous entendez par là, l'innovation, qui est la tarte à la crème, de ce domaine qu'on retrouve absolument dans toutes les politiques publiques. Quand on s'intéresse un peu aux dispositifs d'aide pour les médias émergents, par exemple, on s'aperçoit que ce qui est valorisé, c'est l'innovation. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Pourquoi faudrait d'ailleurs davantage aider l'innovation que aider à préserver des choses auxquelles on tient et qui n'ont pas vocation à véritablement être innovantes. Ce sont des questions passionnantes. Pourquoi le design devrait nécessairement être du côté de l'innovation? Enfin, on va reprendre ces questions. Commençons par celle du modèle qui vous occupe en premier dans ce livre, Anthony Mazur.
Oui, le modèle, je l'ai abordé pour essayer... En fait, je me suis rendu compte que si je voulais examiner les liens entre design et métier numérique, c'était plus compliqué que ça. Déjà, le mot humanité est complexe et polémique, et il fallait forcément voir un petit peu plus large et essayer d'y voir plus clair entre les liens entre design, recherche et développement, étant donné qu'aujourd'hui, les pratiques en sciences humaines et sociales sont multiples et contradictoires, notamment en ligne. On se rend compte que les chercheurs, de fait, ont un environnement qui est hybride, au sens où ils ont affaire à des environnements privés qui ne sont pas directement pensés pour la recherche. Je pense à des acteurs comme Google qui fournissent ce qu'ils appellent des outils, et à la fois des solutions, des logiciels ou des programmes qui sont peut-être directement conçus par les chercheurs. Donc il fallait faire un petit peu tri dans tout ça, et là-dedans, le mot innovation peut apparaître. Innovation, c'est pour moi un mot qui vient pas directement du design, qui vient plutôt d'un environnement économique et marketing. Je pense aussi à la fameuse Startup Nation, et qui va pas s'en poser problème, étant donné que d'un point de vue juridique, l'innovation revient à mettre au secret, c'est l'idée du brevet, à mettre au secret des choses ou des procédés de fabrication, ce qui pour moi va totalement à l'encontre de l'idée que je me fais de la recherche, qui est quelque chose qui est plutôt ouvert et qui va chercher une transmission ou quelque chose qui va se ramifier dans la société, ce que l'innovation empêche. Et une fois que cette critique est posée, il faut quand même peut-être proposer autre chose. Je propose du coup d'essayer de revaloriser le mot « invention » que je vais chercher chez Gilbert Simondon, philosophe des techniques, et qui me semble plus à propos pour décrire l'idée d'une compréhension du fonctionnement des choses, une ouverture qui irait donc, du coup dans le sens d'une recherche que je défends à l'endroit du design.
D'accord. Alors, ce mot d'innovation, on le voit partout. C'est vrai que ça relève davantage de, alors, pour le coup, ce qu'on appelle dans un tout autre sens, policy design. C'est-à-dire vraiment du design de politique publique, comme disent désormais tout un tas de technocrates qui élaborent ces politiques publiques. Pourquoi cette manière d'assigner, au fond, le design à cette innovation? Le design devrait-il nécessairement et toujours être du côté de ce qui est disruptif, pour reprendre un autre mot très à la mode?
Je pense qu'il y a une injonction très forte à cet endroit-là que à la fois peut-être subissent les designers, mais aussi, il faut être honnête, que peut-être qu'ils entretiennent aussi parfois dans leur discours. Il y a aussi une autocritique à faire à cet endroit-là. De toute façon, c'est toute l'histoire du design qui n'aura eu de cesse depuis ses débuts, peut-être avec William Morris, de se débattre avec le capitalisme, voire peut-être aujourd'hui, il y a un numéro de la revue Multitude qui vient de sortir là-dessus, qu'est-ce que ce serait un post-capitalisme? Alors, au sens, peut-être pas affronter le capitalisme, c'est l'angle de ce dossier dans Multitude.
Avec un passionnant long texte de Yves Citon, l'introduction de ce dossier.
Oui. Exactement, oui, mais d'essayer dans une perspective peut-être accélérationniste, de prendre de vitesse le capitalisme avec des technologies qui peuvent être orientées ou désorientées. Et c'est ça qui m'intéresse dans le design, comment le design peut désorienter des comportements techniques, des assignations ou des injonctions techniques, et montrer qu'au final, ça va pas de soi, qu'il est toujours possible de faire autre chose. Donc j'espère que c'est quand même un livre optimiste à cet endroit-là. Et du coup, ça rejoint la notion de modèle, j'élite pas la question, qui, effectivement, le design, en tout cas, dans sa réception universitaire ou dans une certaine réception universitaire, certains sont tentés d'en faire une science. Et donc, c'est une question assez compliquée, mais j'ai essayé de prendre ça selon du modèle, donc dans un sens plus restreint, et d'essayer de montrer que finalement, le design, tel que je souhaite le soutenir, n'œuvre pas à créer des modèles, à stabiliser des choses, mais au contraire, à les dérouter, à ouvrir, à casser ou à déconstruire, pour reprendre l'expression de Jacques Derrida.
Pour vous, le design doit entretenir une relation étroite avec le doute. Et d'ailleurs, vous appuyez sur la philosophie du design telle que énoncée par Ettore Sottsass, que vous citez beaucoup au début du livre.
Oui, c'est ça. J'ai essayé dans ce livre, d'un côté, d'essayer d'amener des textes de philosophie pour interroger le design, et d'un autre côté, de ne surtout pas ignorer, au contraire, de mettre en valeur des textes de designers qui sont encore mal connus, parfois même des designers eux-mêmes, parce que les livres sont épuisés, anciens, voire pas traduits. Donc j'ai essayé de connecter ces deux aspects-là. Et effectivement, Ettore Sottsass qui parle d'une méthodologie du doute, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, et donc qui pourrait peut-être aussi, ça c'est peut-être plus compliqué comme versant théorique, mais de faire le chemin inverse et d'interroger depuis des pratiques de design, des disciplines installées telles que la philosophie, la sociologie ou même la sémiotique. Après tout, ces champs-là, qui parfois servent d'explication pour le design, pourraient aussi être réinterrogés. Donc c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans le livre, notamment dans un chapitre qui propose depuis Jacques Goudy, qui fait un rapprochement entre la réduction de la parole, de la dynamique de la parole orale dans des schèmes graphiques, et d'essayer de montrer comment cette réduction peut-être se rejoue dans le numérique, comment des algorithmes ou des programmes réduisent la pensée humaine, et le design, du coup, pourrait permettre d'interroger ce type d'ambition ou d'utopie.
Alors, c'est un chapitre qui s'appelle « De la raison graphique à la raison computationnelle ». La raison graphique, c'est ce fameux livre de Goody, très très important, qui a été lu non seulement par les anthropologues, mais bien au-delà dans les sciences humaines et sociales. En quoi cette raison computationnelle intervient désormais ? Est-ce qu'elle remplace la raison graphique ? Comment s'articulent ces deux raisons, Anthony Mazur ?
Oui, c'est une expression que j'emprête au chercheur Bruno Bachimon, qui propose du coup de prolonger la pensée de Goody. Alors évidemment, à l'époque, Goody n'était pas au fait de ces technologies numériques, d'y adjoindre plusieurs termes. Il y a la couche programme et réseau, si je ne fais pas erreur, que Bruno Bachimon propose d'examiner, et donc en montrant comment ça s'intercale dans la pensée humaine jusqu'à la reconfigurer. Donc là, on est bien au cœur des humanités numériques, qui ne sont pas seulement l'irruption d'outils qui ne feraient rien aux sciences humaines et sociales, au sens où ça accélérerait ou ça rendrait peut-être plus efficace des choses qu'on savait faire avant, mais c'est bien des mutations épistémologiques, donc de notre rapport au savoir qui s'opère. Ça me semble extrêmement intéressant du coup de ne pas comprendre ces logiciels ou ces matériaux numériques comme de simples outils ou instruments, mais bien comme des instruments qui viennent bousculer des traditions. Et donc la raison computationnelle peut-être peut nous servir à expliquer ça. Et après, d'un point de vue critique, ça c'est peut-être dans le dernier chapitre que je l'aborde sur les mutations de la notion de sujet ou de subjectivité dans le numérique, c'est toute la différence qui est un petit peu subtile et complexe, mais entre raison et rationalité. Alors la rationalité d'un côté serait la recherche d'une logique. Alors logique, évidemment, dans le champ du numérique, ça renvoie à la logique formelle, donc l'idée qu'on puisse abstraire ou modéliser la pensée ou même le monde, c'est l'ambition de Google, hein, de mettre le monde en équation sous forme de signes immuables, des symboles stabilisés. Donc ça, c'est plutôt du côté de la rationalité. Et de l'autre côté, la raison humaine ou la raison tout court, qui est l'exercice d'un jugement critique. Et on voit que cette raison computationnelle tend à substituer la raison par la rationalité. Ça me semble un mouvement assez fort. On retrouve ça dans plein de choses. Et ce qui est pervers, c'est que c'est évidemment caché. Ces strates de programmes, derrière des interfaces graphiques, sont cachées un certain nombre d'opérations techniques qui vont engendrer ces mutations. Et peut-être que le design pourrait permettre de les révéler, de les désorienter, de les critiquer. Ça, c'est ce que je défends en dernier lieu.
Alors au fond, le programme des humanités numériques, avec l'articulation entre sciences humaines et sociales, design, l'aide des mathématiciens, des programmeurs, des informaticiens, etc., ce serait d'ouvrir toutes ces boîtes noires, déjà, dans un premier temps ?
Ça, c'est peut-être plutôt l'horizon, parce que malheureusement, on n'en est pas forcément là aujourd'hui. Les projets concrets qui existent en humanité numérique sont plutôt du côté de constitution de corpus ou d'archives en ligne, pour être tout à fait clair. Ou du coup, je regrette dans un premier temps du livre que malheureusement, quand il a lieu, c'est souvent pas le cas, le designer est relégué à un rôle d'embellissement d'interface qui sont décidés en amont. Donc il y a malheureusement...
Le design arrive pour faire joli, quoi.
Pour simplifier, oui, on aurait d'un côté toujours cette opposition entre une architecture de l'information, plutôt côté ingénierie, et le design arrivera en bout de course et ne pourrait que paramétrer des interfaces ou des systèmes de gestion de contenu qui lui préexistent. Et je défends du coup en opposition une application du designer qui serait plus en amont et qui du coup ferait l'articulation entre ces systèmes techniques et la façon dont ils apparaissent ou ils paraissent pour nous.
Alors, c'est ça que je défends. Ce que vous dites là, c'est aussi par exemple ce que défend quelqu'un comme John Maeda depuis déjà très très longtemps, 20 ans ou 25 ans. Il faut un temps fou pour que cette idée, finalement assez simple, percole. Comment peut-on faire pour que le design intervienne plus en amont ? Est-ce que vous voyez néanmoins des changements s'opérer ? Un autre rapport au design tenté, ici ou là, que ce soit dans le secteur privé ou dans des initiatives de recherche, Anthony Mazur ?
Oui, il y a quelques exemples. John Maeda aussi un exemple intéressant, parce que lui-même est un peu à la croisée de l'art et du design, qui est une tradition, évidemment... Quand on se penche un petit peu sur le design, ça paraît très évident, depuis la Renaissance, ce lien à l'esthétique, au designio, au modèle, qui, bon après, on a un petit peu travaillé cette notion-là, mais qui aujourd'hui, peut-être l'ingénierie revient et tend peut-être à effacer ou à gommer ou à affaiblir cet héritage esthétique du design que je cherche à défendre ou à mettre en avant. Donc après, dans les initiatives récentes, oui, il y en a quelques-unes. Il y a le média de Sciences Po qui a fait un certain nombre de travaux autour de Bruno Latour, où du coup le designer se situe à un rôle, disons, plus stratégique.
La version numérique du grand livre de Bruno Latour sur les modes d'existence.
Exactement. Donc une vraie réflexion sur la lecture et l'écriture en ligne. Il y a aussi un chercheur à l'étranger comme Mackenzie Wark qui a publié un manifeste hacker et un autre livre qui s'appelle Gamer Theory, et le livre à l'écran était augmentable par les lecteurs qui pouvaient commenter et versionner l'ouvrage. Ou alors, encore un autre exemple, une publication en ligne qui s'appelle Hunted by Algorithm, dirigée par deux artistes, Gwenola Wagon et Jeff Guess, où du coup, à un moment, les essais ou les contributions textuelles sont parasités par des chatbots, donc des petits programmes informatiques qui viennent discuter autour des textes rédigés par les chercheurs. Et là, on voit bien que l'opposition forme-contenu, elle ne tient plus. À un moment donné, le travail des designers fait complètement sauter cette vieille tradition sémiotique signifiant-signifié pour ouvrir à des modes qui me semblent beaucoup plus stimulants en termes de recherche.
Alors, le chapitre 4 de votre livre, Anthony Mazur, est titré « Manifeste pour un design acentré ». Donc, c'est un chapitre engagé et qui vient discuter, au fond, l'un des dogmes du design et des développements informatiques tels que nous, les utilisateurs, on les a vus s'installer. Cette idée d'expérience utilisateur qui est au cœur du développement de beaucoup de choses et que vous venez contester. Pourquoi ?
Alors, c'est un petit peu comme innovation, en fait. J'essaye de faire un travail de déconstruction de termes un petit peu à la mode pour voir ce que le design peut jouer ou rejouer là-dedans. Et du point de vue, alors là, ça, c'est une expression peut-être pour les auditeurs, expérience utilisateur, qui recoupe en partie l'idée d'un design d'interface. Et donc, j'essaie de faire l'histoire de cette notion-là, d'aller voir d'où elle vient et de confronter les discours des concepteurs au discours marketing et à des textes de philosophie. Donc, j'essaie de faire dialoguer ces différentes choses-là. Et en fait, c'est une expression de coup design d'expérience utilisateur qui vient du début des interfaces graphiques, donc début années 70, et qui du coup vise à procurer par ces interfaces, donc ça vient notamment des sciences cognitives, ça c'est un petit peu intéressant à constater, d'essayer de produire un environnement fluide sans aspérité pour les personnes qui sont désignées comme des utilisateurs, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
On peut dire en gros aspérités. Pour aller vite, beaucoup de choses sont inventées dans le laboratoire de Xerox à la fin des années 60, début des années 70. Beaucoup de choses qui seront popularisées et auprès du grand public par Apple.
Exactement, par Apple. Et du coup, ça se retrouve dans les puissés d'Apple où du coup, l'iPad, par exemple, devient une fenêtre magique, transparente. On parle aujourd'hui d'interface transparente, voire ubiquitaire. Je pense notamment aux interfaces vocales, comme le Google Home, jusque aux récentes interfaces neuronales. Et donc, on voit qu'il y a petit à petit un chemin qui vise à gommer ça. Mais ce qui se joue là-dedans, c'est peut-être l'arrêt, la suspension, ou en tout cas la réduction du jugement critique de la raison. Et ça me semble extrêmement préoccupant que les designers n'abandonnent pas ces questions-là, s'en emparent et n'accompagnent pas servilement ces innovations, en quelque sorte, technologiques, mais puissent avoir leur mot à dire.
Alors, on se dit que ce travail de clarification, de définition que vous faites, aussi d'historicisation d'un certain nombre d'expressions, de déconstruction des expressions les plus courantes utilisées soit dans le langage du marketing, soit dans celui des jargons divers et variés d'un certain nombre de professions est absolument nécessaire, parce que quand on se trouve à la croisée des chemins entre différentes disciplines, la première question qui se pose, c'est de savoir quelle langue on parle. Est-ce qu'on utilise les mêmes mots? Alors évidemment, quand on a en plus un informaticien autour de la table, lui, il a des langages qui sont très abscons pour ceux qui n'ont pas l'habitude du code. Donc au fond, est-ce que le premier obstacle n'est pas celui-là, c'est-à-dire celui qui empêche de parler le même langage quand on met autour d'une table, je ne sais pas, un historien, un sociologue, un anthropologue, peu importe, quelqu'un un designer et puis un informaticien, par exemple, Anthony Mazur?
Oui, le travail de clarification du langage, il me semble, c'est tout simplement un travail de recherche. Dans n'importe quel essai, c'est un travail qui doit être fait.
Oui, mais là, les enjeux sont quand même...
Les enjeux sont compliqués. Après, moi, du coup, je suis à la fois designer et j'ai une maîtrise, en tout cas minimale, mais qui m'a sans laquelle j'aurais évidemment pas pu écrire ce livre, des environnements numériques et de programmation. Je pratique moi-même ce genre de langage, donc ça m'a évidemment aidé à les comprendre. Et peut-être que d'un point de vue plus large, le design pourrait être ce que le chercheur David Biani, que vous avez reçu récemment, il comprend le design comme une indiscipline qui, du coup, n'est pas un champ stabilisé ou délimité, mais peut-être quelque chose qui traverse plusieurs champs et qui permet de les faire dialoguer. Alors, d'autres domaines, peut-être comme la littérature, peuvent jouer ce rôle, mais du point de vue du design, il me semble qu'il y a cet aspect de connexion, de dialogue, qui serait intéressant à valoriser. Et, évidemment, c'est compliqué.
David Bianic, donc designer, qui est maître de conférence à Paris 1, qui était venu dialoguer avec le sociologue Pierre-Michel Menger, qui venait de publier un livre sur les données en sciences humaines et sociales, les data, les big data. Et donc, l'amorce de dialogue se faisait. J'en profite pour signaler que David Bianic est le curateur ou l'un des curateurs d'une exposition actuellement sur les données à la Fondation EDF à Paris. Peut-être pour rendre les choses encore un peu plus concrètes, Anthony Mazur, vous pourriez nous parler de certains des projets les plus intéressants qui voient travailler ensemble des gens venus d'univers variés dans ce domaine des humanités numériques. Vous disiez tout à l'heure, bon, ce sont des choses qui ont trait à la numérisation, aux archives, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse, que vous regardez au plus près, que ce soit en France ou ailleurs ?
Peut-être tout d'abord pour relater une initiative personnelle sans laquelle ce livre n'aurait pas pu être écrit. J'ai été impliqué pendant environ 2 ans dans un projet d'humanité numérique qui était initié par une enseignante chercheuse, Sophie Fétreau, qui est maître de conférence en design à Paris 1, et de l'autre côté une historienne de l'art, Anne Ritz-Gilbert, qui est enseignante à l'école du Louvre et qui visait à constituer une archive en ligne de documents médiévaux. C'est François Roger de Gagnère qui a parcouru toute la France pour faire des documents de la monarchie. Et donc s'est posé la question de comment on rassemble ces milliers de documents dans une interface pour les donner à comprendre. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne laissait pas indemne. En fait, le processus de numérisation ne laissait pas indemne le matériau de départ et que c'était bien une nouvelle création qu'il s'agissait d'élaborer et non pas quelque chose qui est évidemment impossible, comme un fac-similé qui n'aurait pas trop de sens. Et donc, on a créé une interface qui permet de donner à voir, en tout cas de manifester la masse de documents par des petits points, et ce qui n'est pas du tout opérant dans Google, où quand vous faites une recherche, vous avez une petite phrase qui vous met 1 million de résultats ou 3 millions ou 10 000. On ne sait pas trop ce que ça veut dire en termes cognitifs. Et là, l'apport du design permet de révéler ça et qu'en fait, une recherche sur ce site-là, ça éclaire certains points et du coup, ça permet de localiser des documents dans des masses sémantiques. Donc, ça apporte quelque chose aux chercheurs en histoire de l'art qui n'était pas possible avant l'irruption du numérique. Ça se traduit aussi visuellement par l'emploi d'une police de caractère monochasse, la Input, de David Jonathan Ross, qui est une police créée pour écrire du code informatique. Et donc, on vient déplacer dans l'environnement qui traite de matériaux médiévaux et qui donc permet d'avérer ou de manifester ce décalage d'époque. Ça, c'est une réponse personnelle. Après, dans le livre et dans des études de cas qui sont écrites en ligne, dans un site web complémentaire à la collection, en tout cas à l'objet imprimé de la collection, c'était des petits textes qu'on a coupés pour des questions de place, je viens analyser ou examiner l'environnement numérique dans lequel évoluent les chercheurs, à la fois d'un côté privé et public. Et ce que je remarque, à vrai dire, c'est plutôt un manque de design. Et moi, je rêve de ce que pourraient faire des designers graphiques. Qu'est-ce que pourraient faire des designers de dépôts comme HAL, H-A-L, qui est un gros dépôt d'interface,
d'archives
comme test.fr, d'archives exactement, ou alors des dictionnaires en ligne comme le CNRTL ou le dictionnaire de la langue française informatisée. Qu'est-ce que pourraient faire des designers là-dessus ? Il me semble qu'on est plutôt sur un manque de projet que l'initiative a salué, en tout cas dans le champ francophone, et je le regrette.
Alors on a peu parlé des designers, des artistes jusqu'à présent, on a beaucoup parlé plutôt du domaine de la recherche, un petit peu d'informatique aussi, mais c'est parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission avec Stéphane Buellet qui est designer, la manière dont on pourrait imaginer une présence plus tôt et plus massive aussi des artistes dans ces dispositifs. Ce sera après avoir écouté un extrait du nouvel album de Beach House 7, un titre qui s'appelle Drunk in LA.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Design et humanité numérique au programme de la suite dans les idées aujourd'hui. Design et humanité numérique, c'est le titre du livre d'Anthony Mazur qui paraît aux éditions B42. B42, c'est une maison d'édition qui publie des livres, beaucoup de livres sur le design graphique, mais aussi des revues, et notamment Back Office, qui est une revue de recherche qui paraît une fois par an et dont Anthony Mazur est l'un des responsables éditoriaux. Un nouveau numéro vient de paraître, au sommaire duquel on trouve beaucoup de choses et notamment une conversation, une discussion avec Anne-Lise Renon, Roberto Gimeno et Stéphane Buellet, qui est aujourd'hui le deuxième invité de cette suite dans les idées. Stéphane Buellet, vous êtes designer, vous travaillez dans une agence qui s'appelle Cheval Vert, dans laquelle vous produisez un certain nombre de projets sur des médias ou des supports très différents les uns des autres, du papier, comme cette revue, mais aussi des écrans, des installations, diverses choses. Et vous travaillez en relation également avec ces humanités qui sont pas nécessairement numériques, mais qu'il s'agit précisément de numériser ou de rendre davantage numérique en apportant quelque chose. Alors cette conversation dont je parlais, elle porte sur quelqu'un dont on a parlé dans la suite, dans les idées, il y a quelques mois, avec David Bianic, Jacques Bertin qu'on peut considérer comme un pionnier à bien des égards de la visualisation des données. Jacques Bertin, auquel était consacré il y a quelques mois maintenant à l'École des hautes études en sciences sociales, où il a longtemps enseigné et fait de la recherche et formé énormément de chercheurs, une exposition qui permettait de mieux comprendre ce rôle de pionnier au fond de Bertin. Récemment, pour prendre un autre exemple, je suis retombé sur le livre sur la parenté de François Héran, qui vient d'entrer au Collège de France. Il y a beaucoup de diagrammes de parenté, comme font les anthropologues, et François Héran, au début de ce livre, qui a paru maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, rendait un hommage à Jacques Bertin, qui, au fond, lui a appris à faire ces visualisations, ces diagrammes de parenté. Donc, cette influence un peu souterraine, on commence à en prendre véritablement la mesure. Comment vous, designer, venu plutôt du monde de l'art, vous voyez ces pionniers-là, ces chercheurs en sciences humaines qui se sont posé la question des représentations graphiques autres que les mots écrits sur une page, Stéphane Buellet.
Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis tout à fait honoré. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que Anthony a vraiment une façon de designer d'aborder la recherche, ce qui fait que je pense que bon nombre de designers aussi peuvent se reconnaître dans la façon dont...
Et ça permet le dialogue.
Exactement. Ça crée le dialogue et l'échange. Pour resituer ma position aussi, j'ai une formation en art appliqué à Lyon, à l'école Lamartinière Diderot, et donc j'ai une formation de graphiste et j'ai été formé au design d'interaction de façon autodidacte. Donc déjà, la question de l'accès à l'open source, enfin aux sources justement d'apprentissage pour acquérir les langages, les codes, etc., je les ai appris par justement la culture numérique qui était déjà en place en 2005.
Une culture du partage qui vous a permis d'accéder à...
Exactement. Et cette culture-là, c'est vraiment un des fondements, notamment qui m'a permis aussi de découvrir, vous parliez de John Maeda, avec son livre « Maeda et Média », qui a été vraiment une bible sur ma table de nuit pendant un bon moment. Il y avait aussi les textes d'Annick Bureau, donc des Ola, qui a publié aussi Les Basiques dans l'art multimédia en 2003, qui était vraiment un fondement. Voilà, donc ensuite Cheval Vert, c'est un studio de design graphique au départ, mais l'arrivée de cette culture numérique-là a relativement, non pas chamboulé, mais fait évoluer bon nombre de pratiques, et notamment le travail qu'on avait sur les interfaces, notamment des sites web, des applications, des choses comme ça, nous a ouvert la voie vers d'autres domaines, notamment les domaines de l'installation, l'objet, des domaines aussi de la data visualisation, où on en parlera peut-être plus tard, mais on s'intéresse aussi à la fossilisation de ces données. Comment des datas, si un jour, voilà, on part sur des hypothèses, par exemple, de grosses problématiques de sauvegarde de données, et s'il n'y a plus rien numériquement, comment on peut garder une trace de ces données-là et avoir un rapport affectif à ces données?
Et donc, c'était la contribution de la suite dans les idées à l'entrée en vigueur de la RGPD, comme on dit.
Exactement, exactement. Ensuite, je suis ici justement sur l'invitation aussi d'Anthony, parce que j'ai participé donc au dernier numéro de Back Office, et notamment sur un entretien avec Roberto Gimeno sur l'héritage qu'on peut avoir de Bertin. Cet héritage, notamment, est lié au fait que Bertin a été quelqu'un qui a fondé le laboratoire de cartographie en 1954 et qui a déjà créé un croisement, comme on le fait beaucoup entre des disciplines, entre la représentation de données et la recherche en sciences sociales. Et il est arrivé à créer, ce que j'appelle un manifeste qu'on appelle la sémiologie graphique, enfin la graphique, qui a été en fait après l'avoir redécouvert dans une thèse d'un Américain qui s'appelle Ben Fry, qui est le créateur de Processing, qui est aussi un logiciel open source très très connu. Donc j'ai redécouvert par les États-Unis ce monsieur Bertin. Il a été fondateur dans bon nombre de domaines, en cartographie, en visualisation de données, donc notamment dans le big data. Et ça a été une vraie révélation. L'entretien avec Roberto Gimeno et Annelise Renon, qui a aussi conçu une exposition entière à l'héritage de Bertin, a vraiment m'a permis, j'étais là comme passeur, c'est-à-dire en exprimant une expérience de projet très concrète, jour après jour, et j'ai dû faire le lien justement entre cet héritage qui est lié notamment à une approche du design graphique, je pense, qui est induite dans le titre, voir ou lire, mais où pour lui, la data visualisation qu'on voit beaucoup aujourd'hui, notamment dans le New York Times, enfin dans les plus grands journaux, est d'abord conçue comme à consulter, à lire. Alors que son approche était esthétique, c'est-à-dire à voir directement l'image sans qu'on ait finalement comme une sorte de réflexe visuel et non pas une lecture. Donc, à partir de cet échange-là, qui est dans Back Office, on a vraiment les questionnements d'Annelise, qui est elle aussi, qui a des questionnements de chercheuse, et mes questionnements à moi, qui sont plus de l'ordre du design, voilà, sur cet héritage.
Ça nous montre, Anthony Mazur, qu'il faut absolument faire ce qu'on appelle de l'archéologie des médias pour découvrir ces préhistoriens comme Bertin, pour ne pas s'illusionner face à ce qui nous est présenté en permanence comme une nouveauté. En fait, beaucoup de ces choses ont des histoires relativement longues.
Oui, exactement. Vous receviez il y a peu de temps le chercheur Yves Citon pour son essai Médiarchie, et qui donc est un des passeurs en France de ces théorie méconnue, mais qui commence heureusement à arriver un petit peu dans nos frontières, de l'archéologie des médias, qui ne faudrait peut-être pas confondre avec l'histoire des médias. L'archéologie vise à révéler des couches, à rentrer dans ces strates historiques, mais de façon assez iconoclaste, au sens où on se rend compte que peut-être parfois une époque plus ancienne peut faire surgir une couche qui est plus proche de nous. Donc on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été inventées bien avant et qui parfois même sont plus prospectives que ce qui nous est présenté aujourd'hui sous le registre de l'innovation.
L'archéologie renvoie plutôt à Michel Foucault, à des formes de pratique de la généalogie un peu particulière, plutôt qu'à l'histoire.
Exactement, c'est quelque chose. C'est plutôt étudier des relations de pouvoir, pouvoir et contre-pouvoir. C'est plus ça qui est intéressant de l'archéologie des médias, et des auteurs qui commencent, enfin, ça fait quand même plusieurs années, mais qui, en tout cas, dont certains arrivent très récemment en France, comme Wilhelm Flusser ou plutôt Friedrich Kittler, dont des textes ont été traduits très récemment.
Oui, beaucoup d'auteurs allemands dans ce domaine.
Exactement, et les Mediastudien allemandes, et aussi du côté peut-être plus des pays du Nord, des auteurs comme Jussi Parikka, notamment, ou Erkki Utamo, donc font voler en éclat l'idée d'une chronologie linéaire des médias et invitent à regarder ça d'une façon peut-être plus bricoleuse ou ingénieuse.
Stéphane Buellet ?
Oui, tout à fait, et en parlant d'archéologie, souvent ce qui est intéressant, c'est qu'avec la culture numérique et notamment son influence dans le fonctionnement social et artistique du studio, l'intérêt de se baser aussi sur des recherches ou des réflexions collectives, c'est-à-dire on a énormément d'outils qui permettent de partager, d'échanger, et cette pensée collective comme ça, au niveau d'un groupe, elle permet en fait d'être concrètement, sans mauvais jeu de mots, mais à cheval entre des domaines différents, du graphisme, de l'espace, de l'interaction, et cet aspect-là, en fait, change le rôle du designer aujourd'hui, notamment du designer graphique qui était avant très, le graphiste, c'est-à-dire notamment dans l'approche auteur. Maintenant, on est vraiment dans un rôle du designer qui est à la fois passeur, transmetteur, co-constructeur, et pour moi qui a un rôle clé dans le développement d'imaginaire.
Ça veut dire que l'auteur est un collectif au fond, et qu'on sort de la représentation de l'artiste avec un grand A ou de l'auteur. Il y a un auteur, mais l'auteur, c'est le petit groupe de gens qui ont travaillé ensemble.
Oui, il y a cette idée de... je relisais il n'y a pas longtemps justement le livre d'Annick Lantenois sur le vertige du funambule, sur la relation entre des neurones qui ne pourraient pas communiquer, et tout d'un coup les synapses sont des transmetteurs entre ces neurones, donc ça crée au sein d'une équipe de l'émulation, des choses comme ça. J'avais une citation qui m'est chère de Martin Pedersen, qui est un graphiste norvégien, qui disait « Aujourd'hui, l'écart grandissant entre la science de l'expert et la compréhension de monsieur tout le monde attribue au designer un rôle charnière dans un monde socioculturel et font apprécier aussi la simplicité et la rigueur. » Et j'ajouterais l'émerveillement, justement parce que à l'atelier, on a aussi Patrick Paletta, avec qui j'ai fondé le studio. Il a une approche, lui, sa formation est vraiment dans le dessin typographique. Et cette approche du dessin typographique renvoie à l'architecture. Et dans notre production, il y a un rapport comme ça à une recherche d'efficacité par la simplicité qui est un peu à contre-courant des innovations où il faut régulièrement que ça soit plus fort, plus loin, plus vite. Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle disnovation.org, qui est mené par Nicolas Maigret, et qui base en fait leur approche sur la question du détournement, de la réutilisation en fait d'objets qui nous sont donnés, et au lieu d'être consommateur, simplement utilisateur, on devient joueur, on devient hacker. Je pense aussi à Antonin Fourneau avec ses projets de Eniarnoff, qui, par la culture numérique, qui rejoint d'ailleurs énormément la théorie du rhizome de Deleuze et de Guattari sur le fait qu'elle est horizontale, elle est dénuée en fait de niveau, elle est très éphémère, ça change tout le temps. Et notamment pour le designer, c'est très compliqué puisque tous les 2-3 mois, il y a la question de l'actualisation de la pensée. Même pour Anthony, ça doit être un casse-tête puisque chaque mois, chaque semaine, il y a des recherches complètement transversale, à 360 comme on dit, mais d'un point de vue scientifique, social, du design. Et donc ce détournement d'outils pour nous comme un moyen d'écriture et de réflexion, c'est vraiment intéressant.
Et c'est une manière de faire ce travail de veille et surtout d'éviter ce qui est la conséquence en général directe de la réquisition à l'innovation en quelque sorte, qui est la production de gadgets, c'est-à-dire de choses qui ne servent à rien. Or, tout semble vraiment orienté vers cette production de gadgets à bien des égards, Anthony Mazieux.
Oui, il faut combattre ça. Je rejoins l'appel de Stéphane à la dimension contributive, aussi à ce qu'on appelle le design libre, qui est un petit peu différent de l'open source, qui vise plus une rentabilité. Et on retombe sur des enjeux assez forts dans les humanités numériques, qui sont le partage, la contribution. Je pense, il se revendiquait pas de ce mouvement-là, mais à l'informaticien Aaron Swartz, qui est bien connu pour avoir contribué à Wikipédia, qui a aussi inventé les fils RSS, donc ces fils d'information, ces flux de données, et qui donc en est venu malheureusement à se suicider suite à la pression des droits d'auteur. Donc on voit bien qu'on a différentes cultures qui s'affrontent avec des conséquences qui peuvent être positives ou dramatiques. Et dans le champ du design, la question de l'auteur est en train de voler en éclats, mais aussi les frontières, les différentes catégories, design graphique, design objet, design d'espace ou design de mode, tout s'hybride et c'est nécessaire pour répondre à la complexité du monde. Et ça nécessite aussi d'impliquer d'autres acteurs. Les choses ne peuvent pas se résoudre uniquement entre designers.
Alors Stéphane Buellet, justement, peut-être vous pourriez nous parler de certaines de vos créations qui sont typiques de cette hybridation que vient de pointer à l'instant Anthony Mazur.
Oui, il y en a une qu'on a mis en place récemment, et notamment lors d'un événement public qui était la Fête des Lumières à Lyon, qui est une installation qui s'appelle Stratum, où on détournait très légèrement, mais un capteur qui avait été créé pour remplacer la souris. Et l'idée, c'était justement de détourner ce capteur-là de manipulation de la main, avec une approche complètement éclaté, on va dire, d'un champ de lumière sur lequel on venait manipuler simplement avec la paume de notre main. Et l'idée, l'intérêt dans cette structure-là, enfin notamment dans ce dont parle Anthony, c'est que la façon dont on a travaillé avec des ingénieurs, des métalliers, ceux qui ont fait la structure, avec ceux qui s'occupent de la diffusion, le Mirage Festival à Lyon, c'est une nouvelle façon, c'est-à-dire que tout le monde est au service d'une idée, d'un projet, en mettant ses connaissances, que ça soit l'ingénieur qui communique avec nous en nous donnant des accès à la manipulation du technologique. Nous, la narration qu'on met en place pour qu'on soit plus dans une expérience utilisateur très fermée, mais une sorte de sensation, de sentiment. C'est difficile en tant que designer de parler de poétique, puisqu'on est, censé, enfin, en tout cas, a priori, on est censé parler fonctionnalité, fonctionnement, mais chez nous, c'est extrêmement important cette approche poétique que la matière numérique permet.
Alors, ça prenait la forme d'une installation,
oui.
Mais j'invite les auditeurs qui seraient curieux de voir à quoi ressemblait. Malheureusement, ils ne pourront pas l'essayer sur le web, mais ils en auront des traces visuelles, vidéo. Sur le site de Cheval Vert, on trouve.
Tout à fait.
On trouve les liens vers ces vidéos de cette installation. Je vous remercie Stéphane Buellet.
Merci à vous.
Je rappelle que vous avez contribué à ce numéro de la revue Back Office. Merci Anthony Mazur. Je redonne la référence bibliographique du livre dont nous parlions dans cette suite dans les idées, Design et Humanité Numérique, un livre qui paraît aux formidables éditions B42. On trouve la référence bibliographique du livre de la revue sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission, une page où vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Catherine Donnet à la technique, Philippe Mercher à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Et Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.